nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Focus, je vous propose de partir au large de l'océan Indien, à l'île Maurice plus exactement, non pas pour mettre les pieds dans l'eau, mais pour s'intéresser à plusieurs choses. L'Académie des sciences et des technologies de l'île Maurice tout d'abord, une académie qui a vu le jour récemment en 2007, avec un fonctionnement assez original, puisque lors de sa mise en place, il a été demandé l'accord préalable de la population. Avec ses quelques 1 200 000 habitants, un mélange de cultures riches et variées, où plusieurs langues sont parlées, l'anglais, le français et le créole mauricien. Pour nous parler en détail de la naissance de cette académie, de ses objectifs à court, moyen et long terme, mais aussi pour nous parler du NASAC qui avait eu lieu la semaine dernière, ici à l'Académie des sciences, pour nous parler de ses conclusions et de la manière dont l'Académie des sciences de l'île Maurice s'inscrit, j'ai le plaisir de recevoir Michael Atcha. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, merci d'être venu jusqu'ici. Vous êtes membre fondateur de l'Académie des sciences et technologies de l'île Maurice, pionnier dans les questions de développement durable, ancien directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, avec une carrière internationale dans le domaine de l'éducation et la formation à l'environnement. Alors, auparavant, je vous propose de parler, avant de parler des conclusions du NASAC, je vous propose de commencer par l'histoire de votre académie, jeune académie, qui une aventure qui a débuté en 2007. Comment est née cette académie ?
Vous avez raison de dire jeune, 2007 comparé à 1666, c'est quelque chose. Mais effectivement, trois d'entre nous, retraités des Nations Unies, avec notre expérience, nous avons pensé la nécessité de créer une académie de sciences. Mais immédiatement, surtout dans un pays en voie de développement, on a vu la nécessité de mettre science et technologie. Donc de couvrir l'ensemble des technologies disponibles dans le monde. Il y a une phrase anglaise qui est très utile, c'est le « transfer of technology ». C'est-à-dire pour aider à ce transfert de technologie des pays qui le développent vers le nôtre. Alors, nous nous sommes réunis à 14 et nous avons créé cette académie. Et je dois dire que ça a été un succès remarquable. La presse s'est intéressée, le Premier ministre et le vice-premier ministre sont tous deux devenus membres honoraires de l'Académie. Ils ont donc la dimension politique. Nous éditons un newsletter, un bulletin d'information qui a une très large diffusion, qui nous donne cette visibilité, si vous voulez, cette communication avec les autres. Donc nous voilà installés. Peu de temps, ça fait 5 ans.
Avec, j'imagine, beaucoup de choses à réaliser et un objectif, j'imagine, de conseil auprès des décideurs politiques et économiques.
Je reviens un petit peu chez NASAC, là, la réunion qu'on a eue ici. Il y a 16 académies d'Afrique et vous-même, l'Académie des sciences de France, et de Hollande et de Suisse aussi. Et le truc principal qu'on a vu, c'est justement cette relation entre les académies, les académiciens, les experts, les scientifiques, et les décideurs et les publics. Alors, chez nous, c'est encore plus important. De temps à autre, beaucoup d'entre nous, en notre nom individuel, on écrit. On écrit notre avis sur le développement durable, l'énergie, le sida ou n'importe quel sujet dans lequel on est expert. Mais aussi des forums, des causeries, des relations directement avec les décideurs qui parfois nous demandent et parfois non demandés, nous donnons quand même notre avis. Vous voyez, sur, par exemple, en ce moment-ci, je fais une grande campagne, façon de parler, sur les énergies renouvelables. Et on est joint par un grand nombre de gens. Ce qui fait que le gouvernement, récemment, a créé un comité national sur les énergies renouvelables pour pallier l'éventuelle finition des énergies fossiles. Alors, je pense que le rôle de l'académie est très important dedans. Cette relation décideur-académicien, en passant, dans tous les cas, par la presse.
Alors, la presse, qui, elle, va toucher un beaucoup plus large public, je le disais dans cette introduction, vous allez peut-être pouvoir nous en parler en détail, un public qui, au départ, lors de la création de cette académie, a été consulté pour obtenir son accord.
Mais nous avons consulté, pas le grand public, évidemment, mais des gens, différentes groupes de personnes à l'université, les journaux, les ONG, très importantes à Maurice. Et la réaction était tout à fait positive. Et ceux que nous avons invités pour créer l'académie, nous avons invité 14 scientifiques et tous les 14 ont dit oui. Nous avons là des chiffres extrêmement intéressants. Les parlementaires auraient adoré ça. 14 sur 14. Et cette réunion NASAC, l'Académie des sciences de France, avait invité 17 académies d'Afrique. 16 sont venues. Ça fait 90%. C'est des chiffres extraordinaires. C'est vraiment, il y a là un intérêt qui est tout à fait remarquable. Je reviens à Maurice. Pays en voie de développement, mais premier en Afrique en économie, premier en Afrique dans le good governance, premier en Afrique dans un certain nombre de choses. Donc, on est à la pointe, mais en même temps, on ne produit pas de pétrole, on importe notre énergie de l'extérieur, malgré la bagasse qu'on fait maintenant de l'énergie verte, on importe tout le riz qu'on mange d'Asie, on est dans une situation qui n'est pas durable du tout. Vous voyez tout de suite là le challenge que se pose aux scientifiques.
Comment développer une autonomie ?
Comment développer une autonomie ? Surtout, nous sommes une île isolée. Nous formons partie de ces îles Etares qui sont isolées et qui, à 1500 km de la côte africaine, ce n'est pas Singapour. Singapour ou Hong Kong ont à côté d'eux le continent pour l'eau, etc. Nous, non. Alors, ça pose des problèmes. En même temps, nous voulons peut-être développer aussi l'idée de devenir un peu un modèle de développement.
Ça, c'est, un modèle crois, pour des académies africaines, par exemple
Non, pour les îles, les autres îles oui. En développement. Chaque île a un apport, on apprend de l'autre. Et oui, pourquoi pas. Mais nous sommes une académie nouvelle. L'Académie des sciences d'Afrique du Sud est beaucoup plus installée que nous. Et je ne comprends pas avec l'Académie des sciences ici, qui est tout à fait remarquable avec tout ce que vous faites ici. Même vous avez une radio et nous y sommes. Mais n'empêche, nous avons deux ou trois forces. Une, c'est la collaboration de la presse. Ça, c'est important.
Ce qui n'est pas évident, puisque la science n'est pas forcément quelque chose que les journalistes maîtrisent facilement. Donc, pour le rendre accessible, ce n'est pas évident.
Écoutez, oui et non, je crois que ça dépend aussi de nous. Par exemple, un journaliste me demande, Michael, demain, j'étais interviewé sur telle histoire là, qui était d'actualité. Je me fais l'effort de parler un langage clair, net, simple, et ne pas commencer avec des jargons. C'est pas possible. Le journaliste m'aurait dit, écoute, tu sais, on s'arrête là. Et il y a cet effort à faire en même temps de ne pas perdre le fil de l'argument. Parce que parfois, il faut pouvoir être expert à façon de parler, et donner un point de vue clair et net, que les décideurs soient contents ou pas contents, la question ne se pose pas. Vous dites ce qui nous semble valable. Par exemple, je vous donne un exemple extraordinaire qui s'est passé. Quand il y a le tsunami, il y avait en même temps la réunion des îles en développement à l'île Maurice. Kofi Annan était à Maurice. On a fait un système de balises dans l'océan Indien pour prévenir les tsunamis. Il y a quelqu'un, en ce cas-là, c'était moi, j'étais à cette réunion, qui avait dit, mais il y a aussi le sud de l'île Maurice, vers l'Antarctique. Mais les gens m'ont dit, mais pourquoi l'Antarctique? Mais s'il y a un tremblement de terre à l'Antarctique, si au bout de l'Antarctique se casse et tombe dans l'eau énorme et crée une grosse vague. Ah oui, mais c'est vrai. Alors donc, on a été finalement entouré de balises. C'est des petites choses comme ça. Mais il fallait le dire.
Alors, comme vous le disiez, jeune académie, née en 2007, est-ce qu'au départ, lorsque vous avez créé cette académie, vous, en tant que membre fondateur, il a été difficile, entre guillemets, de recruter des membres, puisque j'imagine que les Mauriciens, les chercheurs mauriciens, travaillent en Grande-Bretagne, par exemple, ou dans d'autres pays. Est-ce une manière aussi de dire à ces chercheurs de revenir sur le territoire, de revenir à l'île Maurice ?
Écoutez, le professeur Jagessa, qui est notre président, qui est aussi le doyen de l'université, a donc une entrée à l'université qui nous aide beaucoup. Et les chercheurs mauriciens, les scientifiques mauriciens, beaucoup à la retraite, donc plus disponibles, se sont joints amicalement, volontairement à l'académie. Plus difficile de recruter les Mauriciens à l'étranger. Nous avons essayé, nous l'essayons toujours, de dire tel et tel Mauricien connu dans divers endroits. Certains se sont joints, mais c'est sur papier. Il n'y a pas eu cette collaboration encore. Donc, ça, c'est un début pour l'avenir, je pense, d'élargir notre cadre.
Ça fait partie de vos objectifs à moyen terme, par exemple
À moyen terme. Alors, pour arriver à cet objectif, une des choses que nous avons faites il y a quelques années de ça, c'était mon initiative de créer un newsletter, un simple bulletin d'information. Mais le bulletin d'information est devenu tellement bien qu'il est devenu maintenant bulletin d'information cum journal. Ce qui fait que beaucoup de mes collègues m'ont dit « Mais Michael, on a quelque chose qu'on veut dire sur tel ou tel sujet, ben, écrivez-moi une page. » Donc graduellement, le bulletin, qui était simplement deux feuilles de chou de nouvelles, est devenu newsletter plus journal. Et à notre réunion de NASAC ici, on a présenté ça comme un modèle et les autres académies ont dit « Mais c'est intéressant ça. »
Une sorte de publication scientifique, en fait.
Semi-publication scientifique et bulletin en même temps. Il y a au moins deux académies qui m'ont dit « Mais comment tu designes ça, etc. ?» Je dis « Mais c'est simple, je vous envoie le design. » Il n'y a qu'à retirer le titre, les jeter et le remplir parce que le design est déjà fait. Le design a pris un peu de temps, il fallait des experts pour le faire. Mais une fois qu'il est fait, je garde le même format à chaque fois. Et il est aussi évidemment disponible en ligne parce que comme le bulletin de l'académie ici, le newsletter, l'académie que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, et nous l'envoyons à un petit nombre de personnes par la poste sur papier, mais un grand nombre de personnes par email.
Et qui touche quel public alors ?
Qui touche tout le monde, qui touche les décideurs principaux, le ministre de l'Éducation supérieure, le Premier ministre, reçoivent une copie, je sais qu'ils les lisent. Les journaux, évidemment, les membres de l'académie. Mais l'idée d'un newsletter, c'est important de dire, ce n'est pas intérieur, c'est pour les autres. C'est comme un journal est publié, pas pour les journalistes, mais pour les lecteurs. Donc, cette idée de focus sur qui va le lire, le target, c'est quand même très important.
Alors, je le disais en vous présentant, votre spécialité, c'est les questions de développement durable, d'enseignement et de formation à ces questions de développement durable. Est-ce que dans vos objectifs à moyen terme, il s'agit aussi d'ouvrir votre académie à des professeurs, à des élèves, à travers des modules différents ?
C'est un modèle. Nous avons aussi créé un grade qu'on appelait des membres associés. Donc, pouvoir ouvrir à exactement ce que vous venez de dire, là, des professeurs, des élèves, d'autres personnes, des étudiants plutôt. Hein. Ça ne marche pas trop, trop bien. Quelque chose de difficile à résoudre. C'est-à-dire que l'étudiant qui devient membre associé, il se dit, mais écoutez, moi, je suis membre associé, je n'ai pas droit au vote, tandis que vous, vous êtes membre à plein temps. C'est peut-être un des problèmes des académies, entre l'académicien. Et on ne veut pas faire cette différence. Alors, peut-être, il faudra peut-être trouver une autre formule. Mais par contre, lors des deux ou trois forums publics que nous avons faits, tout le monde a participé. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème.
Alors, quels sont, j'imagine, vos nombreux objectifs à atteindre dans les années à venir ? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de choses en tête.
Nos objectifs, d'ailleurs, une chose que je voulais dire sur la réunion de NASAC, c'est que les objectifs des académies de sciences d'Afrique, les 16 qui étaient là, se joignent beaucoup. C'est-à-dire, il y avait une phrase qui m'a beaucoup touché. Et je vous le dis en français, comme en anglais, originalement c'était en anglais. We need science and technology, but we also need wisdom. Nous avons besoin de la science et de la technologie, mais nous avons aussi besoin de sagesse. Donc, un de nos buts, c'est de pouvoir être dans la vie publique, d'intervenir sur les questions où une base scientifique est là. Et moi, je me mets comme objectif principal, comme je suis le PRO de l'Académie, c'est dire qu'il faut que les décisions au niveau du pays soient prises sur une base scientifique solide. Souvent, les décisions, prenez le monde aujourd'hui, les décisions sont prises sur quelle base ? Ensuite, c'est-à-dire que directement, nous essayons d'influencer la politique.
Donc développer aussi le réseau, comme vous le disiez, entre les académies, non seulement entre les académies d'Afrique qui existent déjà à travers le NASAC, mais aussi à travers les académies européennes notamment.
Oui. Alors, vous avez dit déjà, vous avez mentionné le NASAC, le Network of African Academy, vous avez parlé avec Robin, son président.
Oui, Robin Cruz.
Les relations entre les académies en Afrique sont bonnes. Les relations entre nous. Temps à autre, une petite réunion à Nairobi sur un thème donné, et ça nous permet de garder des relations entre nous. Mm-hmm. On se revoit, c'est bonjour camarade, comment vas-tu ? C'est déjà très bonne chose. Alors, les réseaux avec les académies, nous avons une réunion une fois avec l'Académie, la Royal Society d'Angleterre. Et on a pu réussir, c'était celle-là.
Vous ne dites pas ça pour nous faire plaisir, ici, au micro de Canal Académie.
Je ne dirais sûrement pas, justement, en tant que scientifique responsable, parce que vous avez ouvert l'Académie, vous êtes venu, tout le monde est venu présent là, et des gens comme Jacques Prochain ont été là tout le long du déroulement, et on a pu vraiment partager. Et c'est ça qui est important. parce que le monde est fait de différents systèmes, de différents niveaux de développement, de différents problèmes, et les partager, mais avec la base scientifique. Ça qui est important, parce que la science avance à grands pas, donc partager ces domaines, c'est très important. Et juste une chose, je l'avais dit au commencement de cette interview, la technologie.
Alors, une de mes dernières questions, Michael Attia, vous parliez de sagesse, qu'il était important d'acquérir aussi une sagesse. Est-ce que vous pensez que la sagesse s'acquiert avec de la technique ou est-ce qu'elle s'acquiert avec le temps?
Peut-être les deux. Peut-être les deux. Je crois que mon expérience personnelle aux Nations Unies, c'était de faire la résolution des conflits, conflict resolution. Je sais qu'il y avait un certain nombre d'outils qui nous permettaient de résoudre, très simple, des villageois qui ne voulaient pas qu'on bâtisse un barrage et un gouvernement qui voulait absolument mettre un barrage là et vous dire, vous fichez le camp, on va vous inonder, conflit. Alors, il y a des moyens, des méthodes, des systèmes. Donc, la sagesse s'acquiert, bien sûr, par l'expérience, mais elle s'acquiert aussi par les outils. Un des outils privilégiés, c'est de comparer. La science travaille comme ça. Ça s'est passé déjà ailleurs. Alors, allons voir les résultats. On va comparer. On pourra vous prédire que si demain vous faites ce barrage là et que vous déplacez 100 000 personnes, et vous aurez pour 15 ans ou 20 ans 100 000 personnes sur votre tête qui seront d'abord malheureux, enfin, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a des méthodes. Alors, c'est peut-être un mot de la fin, c'est que nous puissions apprendre les uns des autres les outils et les méthodes qui existent pour le développement durable et pour la résolution des conflits aussi.
Eh bien, je vous remercie, Michael Attia, d'être venu nous voir, de nous avoir accordé cette interview en français. Et puis, merci de nous avoir fait partager votre enthousiasme.
Élodie, je vous remercie beaucoup aussi de m'avoir invité. Au revoir.
Merci.